Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Semaine à nouveau décisive sur le Brexit alors que les dirigeants européens doivent se retrouver pour un sommet jeudi. La sortie de l'Union européenne le 31 octobre est une priorité pour le gouvernement britannique. Tel est le message porté aujourd'hui par Boris Johnson et relayé par la reine lors de son traditionnel Queen's Speech qui inaugure la session parlementaire. Difficile pour la monarque de garder aujourd'hui la distance qui doit être la sienne face au remous de la politique britannique. Quel rôle peut-elle tenir face à la crise? C'est le reportage de Marie Billon.
Quand des centaines de Britanniques se sont rassemblés devant le Parlement fin août pour protester contre sa suspension décidée par Boris Johnson, c'était pour critiquer le Premier ministre, mais aussi pour défendre non pas une, mais deux de leurs institutions.
C'est tellement un narcissique imbu de ses pouvoirs qu'il se fiche de ce que pense le public, ou même ses députés. Il a mis la reine dans une terrible position. Il est une merde sans nom.
Il n'y a effectivement que la reine, en tant que chef d'État, qui puisse suspendre le Parlement, mais elle ne le fait qu'à la demande du gouvernement, son gouvernement. C'est pour lui faire cette requête que Boris Johnson a envoyé une équipe menée par Jacob Rees-Mogg, son ministre en charge des relations avec le Parlement, à Balmoral, la résidence d'été de Sa Majesté, en Écosse, le 28 août dernier.
Je suis un républicain, mais je sais que la reine a les mains liées à cause des traditions. Elle est dans une position bien difficile. C'est pour ça que je trouve terrible de la part de Johnson et son gouvernement de la traîner dans des histoires comme ça.
Et devant la Cour suprême, fin septembre, quand un panel de 11 juges a estimé que la suspension du Parlement pendant 5 semaines était illégale, c'est encore à Elisabeth II que les manifestants pensaient. Il a menti à la reine. Ils ont induit la reine en erreur, pouvait-on lire sur leur pancarte.
Comme ça, on dirait qu'on a une telle déférence pour la reine que toute personne qui lui mentirait devrait être jetée pieds et poings liés dans les geôles de la Tour de Londres. Mais en fait, ça fait moins référence à la reine elle-même qu'à l'institution qu'elle personnifie. C'est l'institution qui a été induite en erreur. C'est l'équivalent de mentir au Parlement, un grand faux pas.
Justin Fisher est professeur de sciences politiques à l'université de Brunel à Londres. La reine n'a rien fait de mal, dit-il. Elle n'avait pas d'autre choix que de consentir à la requête de son gouvernement.
De fait, elle n'avait pas la liberté d'agir autrement. Théoriquement, la reine peut refuser, mais cela déclencherait une telle crise constitutionnelle qu'elle ne le fera pas. Un monarque n'a pas refusé de donner son assentiment à un texte de loi, par exemple, depuis la reine Anne au XVIIIe siècle. C'est pour cela qu'il est impératif qu'il y ait de la confiance entre le souverain et l'exécutif. Ce système a très bien fonctionné jusqu'ici. La crise dans laquelle nous nous trouvons est sans précédent.
Et elle pourrait encore s'aggraver si Boris Johnson ne parvient pas à trouver un accord avec les Européens et qu'il n'envoie pas cette fameuse lettre à Bruxelles demandant une extension, un report du Brexit. Une loi, le Ben Act, comme il est appelé ici, a été votée par le Parlement, le forçant à faire ce courrier, même s'il ne le veut pas. Et la plus haute instance civile d'Écosse l'a confirmé. Boris Johnson doit envoyer cette lettre si les circonstances le demandent. Ne pas le faire, a dit le juge, détruirait les relations entre la reine et la justice. Explication de texte avec le professeur Fisher.
Même si nous n'avons pas de constitution écrite, nous avons bien sûr les trois pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif. Et si on se trouvait dans une situation où le judiciaire et l'exécutif sont en conflit avec l'exécutif qui refuse d'obéir à la loi, cela forcerait de fait la reine à choisir un camp. Elle pourrait démettre le Premier ministre s'il contrevenait à la loi en ne respectant pas le Ben Act. Je pense qu'il y a peu de chance. Ce n'est pas arrivé depuis le 19e siècle, mais c'est en théorie possible.
La presse croit savoir que la reine a demandé à ses conseillers en quelles circonstances elle pourrait congédier son Premier ministre. Mais Justin Fisher insiste sur le fait que c'est une rumeur, de l'ordre de celle qui a pu apparaître dans les journaux avant le référendum, pour savoir si la reine était pour ou contre le référendum.
Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons peuvent effectivement donner envie à une chef d'État de dépoussiérer le grimoire des précédents. Mais Mais cela me surprendrait beaucoup que Buckingham Palace ait laissé fuiter cette information, car cela pourrait être interprété comme une menace. Et dans ce cas, ce serait politiser le monarque à un degré qui n'est pas souhaitable pour le palais.
Alors, la reine est-elle ou non déjà traînée dans l'arène politique? Justin Fisher répond à un oui timoré. Ça pourrait être pire en quelque sorte. Mais Tom Brooks, professeur et spécialiste de la Constitution à l'université de Durham, dans le nord de l'Angleterre, est beaucoup plus catégorique.
Elle a été traînée dans cette procédure du Brexit. Elle a été poussée à aider le gouvernement à s'acheter du temps dans le but d'aller vers le no deal en autorisant la suspension.
La reine aurait donc été utilisée, manipulée par Boris Johnson et son gouvernement, selon le spécialiste. Ça irait au-delà du simple mensonge. Et selon Tom Brooks, elle pourrait bien en tirer quelques rancœurs.
En privé, elle pourrait bien leur passer un savon. Je n'ai aucune raison de penser qu'elle ou son époux se retiennent. S'ils ont quelque chose à dire, ils le diront de manière polie, mais on ne peut plus direct. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle explique à Boris Johnson à quel point il ne lui rappelle pas celui qu'il présente comme son héros, Winston Churchill, qu'elle a personnellement connu.
Elisabeth II a connu 14 premiers ministres depuis son accession au trône en 1952. On a pu lui prêter une relation tumultueuse avec Margaret Thatcher notamment, mais en invoquer alors un problème de personnalité, pas de confiance.
Hace cinco años, España vivía una jornada histórica con la ceremonia de proclamación de Felipe VI.
Et en Espagne, le pays est aussi plutôt malmené. Crise catalane, incapacité à former un gouvernement depuis 4 ans. Face à cette instabilité, la famille royale apparaît plus que jamais comme un rempart. Et depuis son intronisation en 2014, le roi Felipe VI a réalisé un sans-faute, Diane Cambon.
Si la stabilité de la couronne est aussi prisée, c'est bien parce que la politique est chaotique. Il y a d'abord la crise catalane qui perdure depuis l'automne 2017. Le roi a joué un rôle prépondérant pour calmer les esprits. On se souvient de son discours ferme et conciliateur prononcé 2 jours après le référendum d'autodétermination interdit en Catalogne, lequel avait été marqué par de nombreuses violences policières. Philippe VI apparaît aussi comme la seule figure institutionnelle qui perdure dans le temps face à l'instabilité gouvernementale. Pour la 4e fois en 4 ans, les Espagnols devront retourner aux urnes le 10 novembre pour de nouvelles élections législatives. C'est le roi qui, selon la Constitution, a annoncé la dissolution du Parlement. Et pourtant, quelques jours avant, il était sorti de sa réserve pour enjoindre des candidats de trouver un accord afin de former un exécutif. Sobre, ferme et très bien formé, Sa Majesté a imposé un style de monarchie moderne et à la fois garante des institutions. Son épouse, la reine Laetitia, ancienne journaliste, est elle plus sujette aux critiques de la presse, notamment celle des médias conservateurs qui n'apprécient pas son ton et ses méthodes plus libres. Le couple a réussi toutefois à faire oublier les frasques de Juan Carlos qui a abandonné la vie institutionnelle définitivement cet été. Pour ne retenir que ce qui a fait beaucoup de bruit et qui a conduit en partie à son abdication après 39 années de règne. La double vie avec une aristocrate allemande, sa fortune familiale placée sur des comptes en Suisse et enfin la révélation la plus choquante, ces photos du safari de Juan Carlos au Botswana chassant l'éléphant au pire moment de la crise économique. Felipe VI et Laetitia ont également pris leur distance avec le beau-frère Véreux, l'époux de l'infante Christina, sœur du roi, qui purge sa peine de prison pour détournement de fonds publics. La prochaine étape est l'introduction peu à peu dans la vie institutionnelle de la princesse Léonore, qui devrait être la prochaine reine d'Espagne. Or là, la tâche risque d'être plus compliquée car le sentiment républicain fait chaque fois plus d'adeptes au sein de la population et notamment chez les jeunes de moins de 25 ans.
Et en Géorgie, il n'y a plus de monarchie depuis 2 siècles, mais l'Église orthodoxe aimerait bien la ranimer. Elle a donc déployé des efforts hors normes, comme l'organisation d'un mariage princier entre 2 des 3 branches restantes de la descendance royale géorgienne. Mais le mariage s'est terminé par un divorce et un procès, un fiasco que nous raconte Régis Janté.
Le mariage princier arrangé de haute lutte par le patriarche il y a 2 a fini au tribunal en mars dernier. Les deux époux, qui ont divorcé en 2013, se disputant désormais le droit de porter le patronyme royal de Bagration, une branche exigeant de l'autre qu'elle se soumette à des tests ADN pour justifier de ses prétentions. Tout un programme. Le patriarche, il y a deux, pensait pourtant avoir réussi son coup en réunissant finalement des branches princières dispersées à travers l'Europe depuis le 19e siècle. Mais la querelle sur le droit de porter le nom Bagration a eu raison de l'union, sans parler des aspects tragicomiques des relations au sein du couple princier. David, qui s'y voyait déjà, exaspérait son épouse en réclamant toujours plus, notamment des voitures de luxe, de la part des hommes d'affaires qui finançaient son couple à la demande du patriarche. Il aurait aussi frappé son épouse à plusieurs reprises.
Alors Régis, est-ce un échec total ? Fini les rêves de royauté pour le patriarche, il y a deux ?
Pas sûr pour ce qui est des rêves, du moins. Il y a deux mises sur l'enfant qu'Anna et David ont eu en 2011, Guiorgui, qui aurait l'avantage d'être indéniablement l'héritier légal du trône. L'idée de remplacer la République par une monarchie constitutionnelle est peu soutenue par la population, à vrai dire. Elle l'est davantage par certains politiques toujours soucieux de s'afficher auprès du vénéré patriarche. C'est le cas, par exemple, de l'actuelle présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, pourtant issue de la diaspora est née dans la très laïque France. Madame Zourabichvili a titillé les symboles royaux en souhaitant que son investiture en décembre 2018 se fasse dans le palais royal d'Héraclée II à Tel Aviv, dans l'est du pays. Symbole ambigu puisque Héraclée II est le souverain qui a signé en 1783 le traité qui allait faire de la Géorgie un protectorat de l'Empire russe.
Merci Régis Janté à Tbilissi.
Bienvenue en Belgique, c'est la quatrième dimension. Le bordel intégral, on est au bord de l'implosion. Bienvenue en Belgique.
Un gouvernement belge chargé de gérer les affaires courantes depuis presque un an, faute d'avoir trouvé un accord de coalition. Le problème est désormais récurrent dans le pays. Le fameux compromis à la belge semble en panne. Dans un pays toujours très divisé entre les Wallons francophones et les Flamands, petit tour d'un royaume coupé en deux avec Jérémy Audouard qui signe Les Belges aux éditions Henri Dougier. Il nous a raconté son drôle de pays d'adoption.
La Belgique, c'est un côté francophone, un côté néerlandophone, et chacun vit de son côté. Faut imaginer qu'en ce moment, en Belgique, on a du mal à former un gouvernement fédéral parce que on doit essayer de trouver des éléments de compromis entre une droite flamande assez libérale, assez populiste, et une gauche wallonne qui a plus tendance à être gauche très très prononcée. C'est comme si en France, on devait faire un gouvernement qui mêlerait Marine Le Pen d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre, avec un peu d'Emmanuel Macron entre deux. En France, ça paraît complètement dingue, mais en Belgique, on doit faire avec ça, on doit gouverner avec ça, sachant qu'il y a plein de gouvernements à plein de niveaux différents, au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau local. Là, ça fait 4 mois qu'on attend d'avoir un gouvernement, mais on se dit que cette fois, ça va être vraiment très très difficile, encore plus compliqué qu'avant.
Alors, vous faites un peu d'histoire dans ce livre, hein. Vous nous rappelez un des grands épisodes de crise entre la communauté wallonne et la communauté flamande. C'est l'épisode de l'université de Louvain en 1968. Racontez-nous, c'est assez sidérant.
D'abord, faut savoir que la langue française a dominé le paysage belge depuis sa création en 1830. La langue française, c'était celle qu'on pratiquait dans les universités, au milieu de la justice, etc. Dans les années 60, il y a eu une montée du mouvement flamand, d'une revendication identitaire flamand. Et à l'université de Louvain, où les cours étaient en français, les flamands commençaient à dire « Non, maintenant, on veut nos cours en flamand ». Et pas seulement nos cours en flamand, on veut que les francophones partent de chez nous. Et à ce moment-là, donc, il y a eu une espèce de petite révolution dans une période de mai 68 où c'était agité partout en Occident. Donc là, les francophones ont dû partir de Louvain et ils ont dû même créer une ville nouvelle. Donc ils sont partis de Louvain en Flandre et ils sont allés en Wallonie et on a créé une ville qui s'appelle Louvain-la-Neuve.
Et dans laquelle il y a une université francophone. Alors cette revanche des Flamands, on le voit aujourd'hui, hein, cette revanche se poursuit de par leur réussite économique également. Et on la voit aussi l'émergence d'un parti populiste flamand, le NVA, qui arrive à des scores faramineux, y compris lors des dernières élections.
Alors voilà, la NVA, c'est vraiment un parti qui a émergé il y a à peu près 10-15 ans. C'est un parti à la fois sur un plan économique ultra-libéral et sur un plan communautaire assez identitaire.
Et la NVA a un discours assez anti-migrant.
Alors, faut savoir que le gouvernement auquel participait la NVA jusqu'en décembre dernier, ce gouvernement a éclaté quand le Premier ministre a décidé de signer le pacte de Marrakech. Et là, la NVA et plusieurs partis d'extrême droite ont organisé ce qu'on appelait des marches sur Bruxelles. Ça faisait froid dans le dos. C'était des dizaines de milliers de personnes qui manifestaient dans Bruxelles contre les migrants.
Alors, ce royaume de Belgique qui va avoir 200 ans, est-ce qu'on peut dire qu'il est solide? Vous parlez de deux grands symboles que sont les Diables Rouges et la royauté, on a l'impression que c'est des symboles qui tiennent pas vraiment le pays.
Ah voilà, le football, c'est très bien, mais le jour où l'équipe de football est moins performante, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pays oublie son enthousiasme? Et en ce qui concerne cette famille royale, c'est un beau symbole, mais dans les faits, c'est une famille qui a du mal à être respectée, à tenir son rôle politique.
Alors qu'est-ce qui fait tenir la Belgique aujourd'hui?
Au nord, on a la Flandre, au sud, on a la Wallonie. S'il suffit juste de séparer le pays comme ça, ça poserait pas de problème. Mais au cœur de la Flandre, il y a Bruxelles. Qu'est-ce qu'on fait de Bruxelles si on se sépare? Bruxelles, qui est une capitale bilingue, qui est la capitale de l'Europe. En fait, Bruxelles empêche aussi la Belgique d'éclater.
Il n'y a pas de métro à Belgrade, la capitale serbe repousse ce projet depuis des décennies. Récemment, les Français et les Chinois ont montré leur intérêt pour la reprise en main du chantier. Mais en attendant, les Belgradois s'impatientent et subissent les embouteillages. C'est le reportage sur place de Louis Seyé.
C'est l'heure de pointe dans le centre de Belgrade et sur le boulevard du Roi Alexandre, Veljko Stefanović saute du tramway. Cet étudiant en ingénierie est un habitué des bus de Belgrade.
Je dirais que je passe au moins 10 heures par semaine dans les transports. Mais le réseau n'est pas adapté, parce que Belgrade est une grande ville. De 14h à 20h, c'est catastrophique. Il y a trop de monde, on ne peut aller nulle part. On doit planifier à l'avance pour ne pas arriver en retard. C'est comme ça. Et regardez maintenant comment c'est bouché.
Tableau d'affichage, escalator, annonce au parleur. La station de train où attend Nevanka est prête pour voir passer le métro depuis 1995. Le projet de métro, les Belgradois l'attendent depuis plus de 80 ans.
Bien sûr, ça risque de durer encore longtemps, mais il faudrait que ce projet voie le jour rapidement pour que l'on ait davantage de lignes et que les trajets soient plus courts.
En l'absence de métro, Zoran Bukvic a opté pour le vélo. Mais il se sent encore bien seul.
Ce que nous avons, c'est des bus. Et les bus représentent la majorité des transports publics. 50% des gens utilisent les transports publics à Belgrade. Quelque chose comme 26% utilisent la voiture privée, 24% marchent, et seulement 1 ou 2% utilisent le vélo ou le scooter.
Zoran est aussi le responsable de l'ONG des Voix pour les vélos. Il se bat pour que sa ville se libère de l'emprise de la voiture. Le métro pourrait être une solution, mais pour lui, le projet a peu de chances de se réaliser.
Quand vous construisez des lignes de métro, il faut au moins 10 ans pour les finir. Mais les politiciens raisonnent en termes de mandat et ils ne peuvent pas mener à bien ce genre de projet, même en deux mandats.
Pour beaucoup de Belgradois, le métro est l'un de ces projets fantômes qui hantent les campagnes électorales. Dobrica Veselinović est l'un des animateurs du collectif Neda Vimo Beograd. Ne laissons pas couler Belgrade.
Ça fait au moins 30 ans qu'il y a toujours quelqu'un au gouvernement ou un programme de parti politique qui dit que nous allons construire le métro. Mais personne ne l'a jamais fait. Je pense que les gens n'y croient pas parce qu'ils voient cette élite corrompue qui est actuellement au pouvoir qui ne s'en préoccupe pas vraiment.
Le collectif citoyen Neda Vimo Beograd se mobilise depuis des années contre un autre projet pharaonique, Belgrade sur l'eau, qui sort de terre bien plus vite que le métro. Des immeubles de luxe et un énorme chantier se dressent désormais à la place de la gare centrale, sur les bords de la Sava. Ce projet est financé par les Émirats Arabes Unis. Dans cette optique, la mairie a même modifié le tracé envisagé des lignes de métro. Le nouveau quartier sera un des premiers servis. Dobrica Veselinović.
La plupart des projets depuis les années 70 jusqu'à nos jours projetaient de relier les deux quartiers les plus actifs et peuplés de la ville grâce à la ligne 1. Mais le nouveau plan qui a été proposé il y a maintenant 2 ans a totalement changé la donne.
En juillet dernier, lors de la visite d'Emmanuel Macron, une déclaration d'intention sur le métro a été signée entre les gouvernements français et serbes. Dans la foulée, la municipalité de Belgrade a annoncé le début des travaux pour fin 2020. Reste à voir si ces annonces seront mises en œuvre après les élections législatives prévues au printemps prochain.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.